Vous écoutez
RMC.
Très belle journée à l'écoute d'RMC ou sur RMC Story la télé. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On vous raconte ce matin la triste fin de vie d'une octogénaire hospitalisée pour une sciatique la semaine dernière. Elle est morte de chaud à l'hôpital, faute d'équipement, et alors qu'une troisième canicule se précise pour la semaine prochaine. On va parler dans ce journal du calendrier déjà de l'élection présidentielle l'année prochaine, second tour le 2 mai, au lendemain de la fête du travail, ça fait réagir. Et on reviendra aussi sur la victoire des Bleus, 3-0 contre la Suède cette nuit, les Bleus qui joueront contre le Paraguay samedi en 8e de finale du Mondial.
Les canicules à répétition mettent à mal notre système de santé et la preuve, ce matin, avec ce témoignage RMC.
Oui, le scénario d'une troisième canicule se précise, vient nous dire Géraldine, pour la fin de la semaine. Et alors le gouvernement croise les doigts. Il a commandé en urgence des milliers de ventilateurs pour y faire face dans les hôpitaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est la triste réalité, on peut y mourir de chaud à l'hôpital en France. C'est ce qui est arrivé à une octogénaire la semaine dernière dans un hôpital du nord de la France. Triste fin de vie que nous raconte Marion Gauthier pour RMC.
Entrée pour une sciatique, sous morphine, Monique dépérit sur son lit, dans la pénombre et l'air chaud d'un seul ventilateur, décrit son auxiliaire de vie.
Il fait extrêmement chaud, vraiment. Même moi, c'est suffocant.
Un climatiseur est acheté par la famille avant une dernière visite.
J'ai mis climatiseur en route et là, il y avait écrit 39. Je me dis que c'est complètement dingue. Je passe des glaçons dans son dos pour la rafraîchir au maximum. Je dis, là, t'as à boire, il faut que tu te reposes, tu reprends des forces et demain matin, j'arrive. Et il n'y aura jamais de demain matin.
La culpabilité de celle qui avait fini par appeler Monique mamie.
Moi, je suis dévastée. Pardon.
Et la colère de sa fille.
En fait, on est sonné en 36 heures. Ma mère est morte en 36 heures pour une sciatique. Oui, elle avait des pathologies. Mais quand elle est arrivée à l'hôpital, il n'y avait rien. C'est la chaleur qui l'a fait décompenser, en fait.
Catherine revient sur l'annonce du décès à 4 heures du matin. Sans explication, dit-elle, elle raconte cet appel de la chambre mortuaire qui déborde et ne peut accueillir un corps de plus.
Ça paraît irréel. Quand on dit qu'il va y avoir 1000 morts, 2000 morts, 3000 morts, c'est pas des petits bâtons qu'on fait sur un mur. Ce sont des familles qui sont dévastées.
Contacter l'hôpital n'a pas donné suite à nos sollicitations.
Alors, puisqu'on parle du bilan de ces canicules, on sait que celle du mois de mai a causé au moins 300 morts de plus que la normale selon une estimation du Santé publique France dans les 17 départements qui étaient concernés, donc en mai. Et on parle d'au moins un millier de morts pour celle du mois de juin. Il y a toujours 4 départements du Sud-Est et de la Corse qui sont en alerte orange ce matin. Et à ça s'ajoute le risque d'incendie au niveau, ça y est, le plus élevé dans 6 départements tout autour de la Méditerranée. Ça va des Pyrénées-Orientales jusqu'aux Bouches-du-Rhône en passant par le Gard où une centaine de pompiers sont mobilisés en renfort aujourd'hui. C'est ce que nous dit Cécile Dussert, écoutez-la, des sapeurs-pompiers dans ce département.
On a plus de 30 km/h de vent, une température supérieure à 30 degrés et un taux d'hygrométrie inférieur à 30, donc le fameux triangle totalement négatif pour nous. Donc on en appelle à la vigilance totale de la population. L'emploi du feu est d'ores et déjà interdit depuis le 15 juin et donc pas de travaux effectivement parce que la plupart des départs de feu de végétation sont d'origine humaine et encore une fois par négligence.
Voilà pourquoi évidemment de nombreux massifs forestiers du Sud sont fermés, interdits d'accès au public. C'est le cas par exemple pour les Calanques de Marseille ce matin. Tiens, Marseille, où on apprend à l'instant une nouvelle vague d'interpellations dans l'enquête sur la mort de Mehdi Kessassi, le frère d'Amine Kessassi, ce militant anti-drogue qui avait été assassiné il y a 8 mois maintenant sur le parking d'une pharmacie à Marseille. 4 suspects ont été interpellés hier. On en a donc l'officialisation ce matin. On a enfin le calendrier de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Il en sera évidemment question tout à l'heure à 8h30 sur RMC avec le maire LR de Cannes, David Lisnard, candidat et qui sera l'invité d'Apolline. Premier tour donc de cette élection présidentielle le 18 avril, le second le 2 mai. Et alors c'est un calendrier qui fait réagir Cyprien Pézeril.
Oui, le premier tour aura lieu en pleine vacances de printemps pour toutes les zones. Quant au second, il se déroulera alors que les académies de la zone B, Aix, Marseille, Nantes ou Amiens, seront encore en congé. Et cela pose donc forcément la question d'un impact sur la participation. Ce second tour aura lieu surtout au lendemain des manifestations syndicales du 1er mai, un moment très politique durant lesquels les chefs de la gauche ont pour coutume d'être dans les cortèges. Et ce n'est pas neutre, nous serons alors en période de réserve. Par ailleurs, le 1er mai, il y a aussi le risque de potentiel débordement. De telles images pourraient-elles avoir une influence d'urgence en dernière minute sur le vote des Français. L'exécutif en tout cas a tranché après avoir longuement tergiversé, ce qui devrait soulager certains candidats impatients qui vont enfin pouvoir inscrire ces dates sur leur premier tract de campagne.
Alors en attendant, on est le 1er juillet ce matin, un passage qui s'accompagne de changements. C'est aujourd'hui que les jeunes parents peuvent bénéficier du tout nouveau congé de naissance décidé il y a 2 ans. Une durée de 2 mois, ce congé après les congés maternité et paternité, et jusqu'au 9e mois de l'enfant, rémunéré 70% du salaire le premier mois, puis 60% le second. Autre changement en ce début de mois de juillet, les allocations chômage qui ne sont pas revalorisées. C'est une première depuis 10 ans. C'est une annonce de l'UNEDIC en expliquant que l'état des finances publiques ne le permet pas. 3 millions de personnes quand même sont concernées et ça met en colère Lydie Nicole, écoutez de la CFDT.
Je trouve ça parfaitement inacceptable. La moitié des demandeurs d'emploi seulement est indemnisée par l'assurance chômage. Et sur cette moitié, donc ça représente à peu près 2 millions de demandeurs d'emploi, 56% d'entre eux touchent moins de 1 000 euros net par mois. Donc on se parle de personnes qui sont en grande précarité. Et là, cette décision, elle va aboutir pour beaucoup d'entre eux à basculer dans la pauvreté.
Il est 8h06 sur RMC et la presse étrangère encense les Bleus ce matin.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors, je vous lis ce que disent les journaux ce matin chez nos voisins après la victoire 3-0 de la France contre la Suède hier soir, plutôt cette nuit à New York, avec une supériorité qui devient obscène. Ça, c'est ce que dit la presse espagnole. Et un football tout droit sorti du guide Michelin. Ça, c'est ce que disent les Allemands en saluant à nouveau le doublé de Kylian Mbappé et aussi le match incroyable de Michael Olise. Et c'est aussi l'avis de ses supporters à la sortie du stade à New York.
C'est un niveau supérieur, c'est une classe supérieure. Tout ce qu'ils font, c'est un niveau dessus. On a certains joueurs qui font des fulgurances phénoménales. Ça joue trop bien, c'est trop à l'aise. Olise au milieu, il dirige tout. Mbappé devant, ça va trop vite. Même Barcola ou Doué, ça va trop vite.
Pour moi, c'est la meilleure du tournoi. Sur le papier, il n'y a pas photo.
Avec 3 buts, il y a une domination qui est quand même claire et nette sur chaque match. On prend pas le bouillon, ça sent bon. Ouais.
Depuis le début de la compétition, là, on montre vraiment que des bons résultats. On est vraiment vraiment fort. Là. C'est énorme. On va aller super loin. On chope l'Argentine en finale et on se les fait.
Voilà, et même la presse argentine nous voit comme les grands favoris pour la victoire finale. Alors les Bleus sont rentrés dans la nuit à leur QG de Boston où ils ont été accueillis par une haie d'honneur. C'est là donc qu'ils vont préparer le 8e de finale qui aura lieu samedi soir 23h à Philadelphie contre le Paraguay. Jean-Louis Tour, vous êtes encore avec nous ce matin, c'est vous qui avez commenté le match cette nuit sur RMC. France-Paraguay, ça rappelle évidemment la Coupe du Monde 98 et tout le monde sait comment ça s'est fini.
Oui, pour cette nouvelle étape, Didier Deschamps va forcément revoir des images de 1998. C'était déjà en 8e de finale de Coupe du Monde. C'est à Lens. Les Bleus ont affronté le Paraguay de l'impressionnant gardien José Luis Chilaverte. À l'époque, le sélectionneur et ses partenaires s'étaient cassés les dents sur la défense jusqu'au but en or de Laurent Blanc en prolongation. Mais pas question pour Didier Deschamps de se servir de son passé de joueur pour préparer le match.
Ils étaient pas nés en 98. J'espère que ça sera moins dur. Même si je sais cette qualité du Paraguay, il y a de bons joueurs et puis il y a cette agressivité, ils ont ça dans l'ADN, de savoir bien défendre, s'accrocher. Je vais les laisser tranquilles parce qu'il faut bien récupérer, mais quand on basculera, oui, il y aura une préparation du match qui est un peu spécifique quand on joue une équipe sud-américaine.
Sorti 3e de son groupe derrière les États-Unis et l'Australie, le Paraguay a éliminé l'Allemagne en 16e de finale, après une séance de tirs au but et après surtout avoir montré des qualités défensives indéniables. Mais la France a probablement plus d'armes en attaque que les Allemands pour faire sauter le verrou paraguayen samedi.
Alors on est à la moitié, hein, ça y est, des 16e de finale. Cette nuit, le Mexique s'est qualifié 2-0 contre l'Équateur. Et alors ce soir et la nuit prochaine, très beau programme qu'on vivra sur RMC. On va revoir l'Angleterre à 18h contre la République démocratique du Congo. La Belgique face au Sénégal un petit peu plus tard. Et dans la nuit suivante, les États-Unis contre la Bosnie.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h09, on parle économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires, mais c'est avec Pierre Rondeau ce matin. Bonjour Pierre.
Bonjour Apolline.
Hier, Roland Lescure, le ministre de l'économie, a annoncé à mon micro côté BFM TV que le taux du livret A allait augmenter.
Oui, alors aujourd'hui, ce taux est fixé à 1,5%, soit l'un des taux les plus faibles depuis 4 ans. Et il devrait augmenter à partir du mois d'août afin de faire bénéficier 58 millions de titulaires du livret A, l'épargne préférée des Français. C'est une bonne nouvelle. Alors pour le pouvoir d'achat, on verra après, mais une bonne nouvelle pour le rendement de l'épargne qui va améliorer le rendement des épargnants.
ce nouveau taux, est-ce qu'on sait de combien il sera?
Alors, on va pas se lancer parce que pour l'instant, on n'a pas d'informations. Roland Lescure, le ministre de l'économie, a annoncé que d'ici le 15 juillet, on allait avoir de plus amples informations et acter une hausse dès le mois d'août. Mais si on se base sur la méthodologie particulière du livret A, on peut estimer une augmentation jusqu'à 2%, voire dépasser les 2%. Le taux du livret A, le calcul du taux du livret A respecte une méthodologie bien précise basée sur l'inflation des 12 derniers mois. Deux fois par an, on recalcule le taux en février et en août à partir de l'inflation de la période précédente. Entre février 2025 et février 2026, l'inflation moyenne était de 1,1%, ce qui avait amené le gouvernement à faire baisser le taux du livret A. Mais depuis le conflit en Iran et la hausse du prix des matières premières, l'inflation est repartie à la hausse à 2,4%. Donc, effectivement, évidemment, le taux va augmenter. Mais de combien ?
Le livret A, c'est vraiment un bon placement ou pas ?
Alors, si vous voulez financer l'investissement public, si vous voulez avoir une épargne immédiatement disponible, plutôt que d'avoir de l'argent qui dort sur un compte courant, c'est une bonne chose. Maintenant, sachez que cette épargne est très peu rémunératrice et parfois au rendement négatif si on prend en considération l'inflation. Les spécialistes bancaires estiment et recommandent de conserver 2 à 3 fois son salaire sur un livret A. Et si vous avez une capacité financière et une capacité d'épargne plus importante, tournez-vous vers des rendements risqués mais mieux rémunérés, comme les ETF, l'assurance vie ou le plan épargne action.
Merci Pierre. Les chiffres de l'énergie, comme chaque matin sur RMC, ça monte ou ça descend ?
Alors, sans-plomb 95, ça augmente très légèrement de 1,89 à 1,90.
Ah, ça repart en haut !
Mais de 1 centime.
Ouais, mais enfin, voilà. Tout de même.
Tout de même, mais 1 centime. Le gazole, 1,88, on stagne. Le baril pétrole, il a aussi augmenté 72,80 hier, 73 dollars aujourd'hui. Et le gaz, 42 euros hier, 43,44 € aujourd'hui.
Merci Pierre, 8h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Dans un instant, c'est le retour de l'humour avec Arnaud Demange qui nous rejoint. À 8h30, notez que mon invité dans le face-à-face, ce sera le candidat à l'élection présidentielle et maire de Cannes, David Lisnard. Juste après, il y aura le choix de la rédaction, Mathieu.
Seulement 6 enfants sur 10 à l'école primaire ont suivi des séances des programmes d'éducation à la vie affective. C'est pourtant obligatoire. C'est un chiffre RMC. Et puis la France file en 8e de finale. Les toutes dernières infos de la Coupe du Monde, tout ça à 8h50.
À 8h50, mais d'ici là, en effet, il y a Arnaud Demange et il y a le face-à-face. On se retrouve dans un instant, il est 8h12.
RMC, Apolline Matin. Tous les jours de manche.
8h13 sur RMC, l'heure d'Arnaud de Manche. Salut Arnaud.
Bonjour, bonjour mes amis français. Et oui, c'est nous les Français. C'est nous qu'on a gagné hier contre la Suède. Les Bleus ont battu les Suédois. Je les ai encouragés toute la nuit, les Bleus. J'étais là. La canicule plus les matchs la nuit, on en veut à notre sommeil en ce moment. Hein. Alors la Marseillaise était splendide au niveau de l'interprétation. Et l'hymne suédois est très sympa aussi. Ça mettait une petite ambiance, c'était cool. La Suède était très impressionnante sur le papier avec Gabriel Gudmundsson, Herman Johansson, Alexander Bernardsson, Hjaltel Efonkisson, Balad Akarkasson, Pizza Kalsson, coup de claque sur leur sélectionneur, Harley David. Et que dire de ces personnes, Masson, chanson police.
Sur Son.
Pleine lucarne, un coup franc de Messi. Non mais c'était un beau match que vous avez donc pu suivre sur RMC.
Et oui, avec une très belle passe de Chris Paul vers Ikea. Ikea qui vient de se faire démonter par Olysée. Le ballon qui revient dans les pieds de Volvo. Volvo qui essaye de faire le break. Et c'est récupéré par la charnière centrale, Bang et Olufsen. Et une relance bien captée par Nokia. Je sais, Nokia c'est finlandais, mais j'avais envie de faire la blague.
Moi j'achetais.
Elle est où la liberté de l'auteur alors?
Licence poétique.
C'est pour toi Victor Hugo. Voilà. Coluche. Fred Hermel. Alors, Emmanuel Macron. Je pense qu'il a regardé le match. Enfin non, d'ailleurs, apparemment il voit plus rien. Il a encore son problème à l'œil. Vous avez vu, il a ressorti les lunettes d'aviateur. Il va finir son quinquennat avec un labrador et une canne blanche à ce moment-là. Ou alors il s'est dit, avec la canicule, Trump, il va à nouveau vouloir le Groenland, je laisserai pas faire, et zou, il remet les lunettes. Voilà. C'est un peu comme Batman qui enfile sa combinaison. Allez Brigitte,
Direction la Macron cave pour prendre la Macron mobile. Nous allons macroner la tronche à Donald Trump. Tu as les Macron boomerang et le Macron phone?
Ouais, j'ai le Macron phone, ouais. C'est quoi cette texto à une iranienne?
Enfin, Brigitte, c'est pas du tout ce que tu Macron crois. Macron aïe.
C'est les choux,
il a des battes boomerang et une batte mobile.
Restons sur la Coupe du Monde. Hein. Donc la FIFA a accusé la Corée du Nord de diffuser la Coupe du Monde sur la télévision d'État sans avoir payé les droits.
C'est l'hymne de la FIFA.
Voilà.
Donc ce conflit oppose... Non, c'est la Corée du Nord. Oui. La Corée du Nord. Ce conflit oppose, voilà, vous l'avez dit, une dictature prête à tout pour de l'argent et qui se croit au-dessus des lois à la Corée du Nord. Et en fait, Kim Jong-un a argumenté en disant... C'est une compétition mondiale, vous n'avez pas le droit d'en rendre la vision payante. J'imagine la tête des juristes de la FIFA qui ont dit « Bon, on va devoir contre-attaquer. Robert, tu pars à Pyongyang pour récupérer les droits. Moi » Moi Pourquoi moi? Georges, tu veux pas y aller?
Ben non, et pourquoi moi? Le nouveau, là, Kevin Floury, tu veux pas y aller?
Oh ben non! J'ai quitté BFM parce qu'il me faisait commenter la météo par 55 degrés sur des toits en zinc, c'est pas pour aller en Corée du Nord! Oh Kevin, c'est vraiment la victime du moment, lui!
Dans une semaine, le mardi 7 juillet, on aura les résultats du procès en appel de Marine Le Pen.
Et oui, on saura qui sera le candidat RN à la présidentielle, Marine ou Jordan. Suspense, suspense, est-ce que notre première dame sera une princesse? Maria Carolina de Bourbon, des Deux Siciles, des 50 nuances de grès et des 101 dalmatiens. Est-ce que, si c'est Marine comme première dame, on aura un chat? Ce serait sympa, un chat à l'Élysée, un chat du RN qui irait s'expliquer sur les plateaux de CNews en face du chat de Christine Kelly. Miaou. Miaou, miaou.
Miaou, 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 miaou.
Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou.
Ah, je l'ai reconnu. Miaou, miaou.
Il y a aussi le chat de Philippe de Villiers. Après, adopter un chat, bon, c'est, enfin, une chat, un chat.
Ouais.
C'est quand même, enfin, bon, non, mais c'est quand même mieux que Louis Alliot. Enfin, tu me proposes d'adopter un chaton ou Louis Alliot, je réfléchis pas très longtemps. Je me vois très mal revenir à la maison. Chouchou, j'ai une surprise. Devine qui va vivre avec nous.
Un petit chat?
Non, Louis Alliot. Il était abandonné par sa maîtresse, alors je l'ai adopté.
Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un Louis Alliot?
Bah, je sais pas, jouer avec, le carasser, le car...
Bon, je vais me dire, il est propre au moins? Il est castré?
Non, il est perpignanais.
Oh non!
Coluche!
Fred Hermel!
Et il perd ses poils? Non, ça c'est Édouard Philippe. Hein, donc... Voilà, alors on n'a pas analysé tous les enjeux du procès Le Pen, mais la chronique est finie. Pour des infos intelligentes, faudra demander à Alain Duhamel.
Oh, miaou! Miaou, miaou.
Bah, tu sais qu'Alain Duhamel, j'ai calculé, vous savez combien ça fait en année chat, Alain Duhamel? 602 ans. C'est beaucoup d'années, hein. Allez, à demain.
Il est 8h10.
Seigneurie, avec les peintures Seigneurie, vos chantiers de vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Il est 8h19 et au 32-16, il y a Oumam qui nous appelle de Caen. Bonjour.
Bonjour
Apolline.
Comment
allez-vous? Vous êtes directeur d'un point P. Alors ça c'est pas Estelle moi, mais cela dit, franchement, je suis très contente de vous accueillir. Oumam, dites-moi, vous vouliez réagir à la question des isolations. Vous avez entendu tout à l'heure les fameux DPE qui en réalité s'occupent uniquement de lutter contre le froid, mais pas contre la chaleur, et on se retrouve avec des vrais problèmes d'isolation. Hein.
Alors pas forcément, en fait, c'est ce que j'expliquais au standard tout à l'heure. Le DPE a pour principe de, pour être très synthétique, isoler, ventiler, chauffer. D'accord.
Okay.
Si on isole et qu'on ventile, donc c'est-à-dire qu'on va isoler nos cloisons correctement et aussi nos plafonds, ce qui veut dire qu'en hiver, bah en fait, on a une température qui n'est pas perdue. Et c'est-à-dire qu'aussi en été, la chaleur, en théorie, rentre le moins possible dans la maison. Donc dans isolé, on a donc la laine et on a aussi également toute la partie menuiserie qui est extrêmement importante parce que par les menuiseries, on va aussi surchauffer la maison si elles sont pas assez épaisses.
Okay.
Ce que je voulais dire en intervenant, c'est que c'est à l'image un peu de nos politiques depuis quelques années, et c'est pas que le gouvernement Macron ou autre, c'est vraiment toutes les politiques. C'est dès qu'on identifie en fait un problème, on va surréagir en créant des règles. Mais d'ailleurs, quand on crée ces règles, on va pas jusqu'au bout, notamment dans le contrôle. On parlait de DPE tout à l'heure, et il y a un artisan
qui a appelé, qui est couvreur.
Absolument. Qui est intervenu pour dire, bah oui, aujourd'hui, quand on fait un DPE, on peut pas aller tout vérifier. C'est normal parce que quand on fait un DPE, bah, les cloisons sont déjà pesées. On voit pas
Donc on va pas vérifier derrière, ouais.
Et on peut pas vérifier d'ailleurs. Mais en fait, la vraie règle qu'il faut imposer, je pense, aujourd'hui, dans cette règle de DPE, c'est d'aller contrôler avant la pose des cloisons. Mmh. Et là, on verra si on met de la vraie laine épaisse, qu'aujourd'hui, on peut mettre n'importe quoi, hein, de la laine en 45, en laine de verre qui est comme une éponge, qui va absolument rien absorber, absolument rien garder. Et si on faisait ça, juste en respectant ce principe-là de base du DPE, on n'aurait pas de...
Mais est-ce que le problème, ce que disait un peu tout à l'heure la patronne de PAP, c'est qu'elle disait aussi, on a voulu faire des normes sur un point, mais on a dégradé les autres. C'est-à-dire que, effectivement, comme vous dites, on identifie un problème, on veut l'améliorer, donc on fait une norme pour celui-là, mais on se rend pas compte que ça peut avoir des conséquences à l'inverse. Par exemple, vous dites, ça protège de la chaleur, mais une fois qu'elle est rentrée, en revanche, ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup plus de mal à la faire sortir.
Exactement, et c'est là où on ne va pas jusqu'au bout encore de cette sub, qui est à la base une très bonne idée. Aller jusqu'au bout, c'est on isole, on ventile, mais derrière, chauffer, chauffer, c'est une fois que je mets des radiateurs électriques, on va mettre des pompes à chaleur qui peuvent être subventionnées également.
Ou même, moi, je veux venir dans votre magasin, j'ai l'impression que vous allez m'expliquer tout, mais ultra bien, quoi. Franchement,
il faut aller jusqu'au bout, c'est ça qui est important, c'est aller jusqu'au bout d'un chantier. Si on chauffe une maison avec une pompe à chaleur l'été, bon, en fait, cette même pompe à chaleur peut servir de climatisation en hiver. Et on refroidira la maison par l'intérieur, et parce qu'on a une bonne isolation, elle ne sortira pas à l'extérieur.
On fera les deux et on gérera exactement l'hiver et l'été. Voilà. Merci beaucoup Oumam, qui est donc directeur d'un point P à Caen dans le Calvados. Il est 8h22 sur RMC et RMC Story dans un sens. C'est le face-à-face et mon invité c'est David Isnard, le maire de Caen et candidat à la présidentielle. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
Et des nouvelles des Bleus tout de suite. Les Bleus qui sont de retour à l'Arkansas de Boston. Ce matin, ils sont rentrés dans la nuit après leur victoire 3-0 à la Coupe du Monde contre la Suède. C'était hier soir à New York. Avec encore un doublé de Kylian Mbappé, c'est son troisième du mondial. Et un nouveau but de Bradley Barcola. Les Bleus qui affronteront le Paraguay en huitième de finale. Ce sera samedi 23h à Philadelphie. L'autre résultat de la nuit à la Coupe du Monde, c'est la victoire du Mexique 2-0 contre l'Équateur. Ça se passait à Mexico. Il y aura trois nouveaux 16e de finale entre ce soir et la nuit prochaine. On vivra tout ça sur RMC, notamment l'Allemagne à 18h contre la République démocratique du Congo. Du nouveau ce matin dans l'enquête sur l'assassinat de Mehdi Kessassi il y a 8 mois à Marseille. Vous sonnez de la mort du frère d'Amine Kessassi, figure de la lutte contre le trafic de drogue dans la deuxième ville de France. Eh bien, quatre nouveaux suspects ont été interpellés hier, en plus des 6 qui avaient été mis en examen à la fin du mois de mars. Le bilan des canicules, celle du mois de mai, qui a causé au moins 300 morts de plus que la normale, selon Santé publique France, dans les 17 départements concernés. On parle d'au moins un millier pour celle du mois de juin. Ce matin, à l'instant, il y a l'Espagne qui en attribue 1000 de plus que la normale en raison de la chaleur. Alors, il y a toujours 4 départements du Sud-Est et de Corse qui sont en alerte orange pour la chaleur ce matin. Ils le seront au moins jusqu'à demain. À ça s'ajoutent 6 départements au niveau le plus élevé pour le risque d'incendie des Pyrénées-Orientales ou Bouches-du-Rhône, donc près de la Méditerranée. Les calanques fermées interdites d'accès au public. C'est le vent qu'on redoute. Il fera encore très chaud aujourd'hui dans le sud de la France. Quelques températures. 34 à Montpellier jusqu'à 37 à Toulon.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, le face-à-face. Mon invité est candidat à l'élection présidentielle. David Isnard, le maire de Caen et président de l'Association des maires de France. Quel est le projet, tiens, de David Isnard pour la France? Je lui pose la question dans un instant.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour David Lisnard.
Bonjour.
Merci d'être à mon micro pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le maire de Caen, vous êtes président de l'Association des maires de France et vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Très nombreuses questions à vous poser, notamment sur ce qui s'est passé sur le terrain pendant la canicule qui vient de s'achever, mais vous êtes encore en alerte d'ailleurs dans le sud-est, alerte orange, et les fortes chaleurs qui arrivent, les maires qui ont été en première ligne face aux difficultés. Mais je voudrais d'abord que l'on revienne sur ce qu'il se passe à partir d'aujourd'hui. On vient de l'apprendre, c'est d'ailleurs nos confrères du Canard Enchaîné qui l'ont découvert. Il y a un vide juridique qui fait qu'à partir d'aujourd'hui, 1er juillet, les mineurs auteurs de crimes, on parle de crimes, hein, les mineurs auteurs de crimes ne pourront plus rester en détention préventive. C'est un vide juridique qui n'a pas été comblé et c'est une absurdité, j'allais dire, de plus dans le système. Et les magistrats qui se disent très inquiets.
Oui, vous avez répondu dans votre question, c'est la énième expression d'un système à bout de souffle qui manque totalement de bon sens. Je sais que cette expression vous fait réagir à chaque fois, mais qui manque totalement de bon sens qui prolonge l'impuissance publique. La crise de notre démocratie, c'est une crise avant tout plus que de la représentation, longtemps que je le dis. Tout ensuite de carence dans l'exécution des choses. Les magistrats ont raison de souligner cette carence juridique, donc politique. Les politiques...
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h50 sur RMC, le Mondial de Virginie. C'est avec vous Virginie Fulpin, bonjour.
Bonjour.
Dans un instant, avec vous les toutes dernières infos sur le Mondial. Après la qualification des Bleus pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, on est enthousiaste. Mais avant cela, le choix de la rédaction avec Bérangère Bocquillon. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Vous êtes chef du service société d'RMC. Les nouveaux programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle pour les élèves de la maternelle à la terminale. Bon, ils ont été mis en place en septembre dernier. On en avait beaucoup parlé, hein, à raison de 3 séances obligatoires par an. Vous nous révélez ce matin une information RMC. Seuls 6 enfants sur 10 en primaire, seuls 6 enfants sur 10 ont suivi ces 3 séances, des séances qui sont pourtant obligatoires.
Oui, c'est comme si je vous disais que seulement 6 élèves de primaire sur 10 ont suivi tout le programme de maths. Hein, car depuis cette année, l'éducation à la vie affective, c'est un programme scolaire au même titre que les autres. Alors qu'est-ce qu'on y apprend ? En primaire, par exemple, les enseignants expliquent aux enfants que leur corps leur appartient, l'égalité entre les filles et les garçons, la notion d'intimité, de consentement, ce qui fait que ces programmes protègent les enfants et entraînent même une libération de la parole. Écoutez bien ce témoignage d'une directrice d'école en Île-de-France, qui a mis en place des séances d'éducation à la vie affective du CP au CM2, ce qui a provoqué plusieurs confidences d'enfants.
4 enfants ont parlé, en fait, pour dire des choses qu'ils n'auraient pas dû subir. Ils en ont parlé à leur enseignant, qui m'en a parlé. Un des exemples, un enfant a été forcé à assister à une situation de fellation. Et après, moi, je n'auditionne pas les enfants, hein, je lance des informations préoccupantes. C'est factuel, hein, on ouvre les guillemets et on cite.
Ces cours d'éducation à la vie affective, il faut le rappeler, hein, c'est un sujet de protection de l'enfance.
Ouais, à l'école primaire, comme au collège et au lycée, où il y a d'autres enjeux, comme par exemple lutter contre les mensonges qui circulent sur les réseaux sociaux. Audrey Chanona est responsable des questions d'éducation sexuelle pour le syndicat de directeurs d'établissement SNPDEN, mais aussi principale de collège à Cognac.
J'ai traité par exemple cette année 2 affaires avec 3 mois d'écart d'un élève de 3e qui a eu des relations sexuelles avec une jeune fille pour pouvoir en fait imiter ce qu'il avait vu sur les réseaux sociaux et en fait on a abouti à 2 affaires de viol parce qu'en fait pour lui c'était complètement normal de pas accepter le consentement tant pis si la jeune fille disait non parce que de toute façon à la fin elle allait dire oui. Voilà. Et ça s'est terminé par 2 signalements au procureur.
En fait quand on entend ces témoignages on s'étonne parce qu'on comprend bien l'importance de ces cours, mais on s'étonne qu'il n'y ait pas plus de 6 élèves de primaire sur 10 qui aient bénéficié des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle.
Alors la raison principale, c'est qu'il n'y a pas assez de formation et tous les enseignants ne sont pas à l'aise avec ces questions. Les parents le savent, hein, c'est pas toujours simple d'aborder ces sujets et pour Audrey Chanona, quel que soit le niveau, le compte n'y est pas du tout.
Les classes qui ont eu les 3 séances annuelles sont en réalité extrêmement rares. Que ce soit en primaire, en collège ou en lycée, on est très loin du compte. Très vite, certaines académies se sont retrouvées débordée par le fait qu'elle n'avait pas accès de formateurs, ce qui fait que sur le terrain, les enseignants n'ont pas été formés comme ils l'auraient véritablement dû.
Alors, il y a un autre frein, peut-être, hein, au déploiement de ces programmes, l'opposition de certains parents.
Ouais, mais là, surprise, hein, alors que le syndicat de la famille ou les parents vigilants proches d'Éric Zemmour étaient critiques de ces programmes, il y a finalement très peu de parents qui se sont plaints des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est ce que me rapportent plusieurs directeurs d'établissement.
Pour toute école, il y a un parent qui a dit que son enfant ne viendrait pas à l'école si on parlait de ça.
On a expliqué en début d'année en réunion de rentrée au niveau des parents qu'on allait dispenser ce type d'enseignement et on n'a pas eu de réaction plus que ça. Je pense que les parents nous font vraiment confiance ici et puis je pense que la société évolue. Je pense que c'est une protection pour les enfants et que ça, les parents maintenant le comprennent bien.
Des directeurs qui estiment que ces séances doivent être une priorité. Pour rappel, en moyenne, 3 enfants par classe sont victimes d'inceste selon la commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants.
Allez, je rappelle cette info RMC que vous révélez ce matin. 6 élèves de primaire sur 10 seulement ont suivi les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle au complet. Merci Bérangère Bocquillon, chef du service Société. L'équipe de France est en 8e de finale de la Coupe du Monde.
RMC, le mondial de Virginie.
Eh hey Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous, le journal de la Coupe du Monde. Et ce matin, les Bleus n'ont fait qu'une bouchée de la Suède cette nuit. Hein. Suède, 3 buts à 0 hier soir.
Masterclass, supériorité écrasante, spectacle éblouissant, voilà ce qu'on lit dans la presse étrangère ce matin. Le monde entier sous le charme et surtout de nos artistes Mbappé, Olysée, Dembélé, enfin tout le monde à part Yamine Lamal, le joueur espagnol, dit lui que la France ne peut pas être meilleure que l'Espagne. Il rappelle que c'est bien l'Espagne qui a gagné l'Euro 2024, alors que le géorgien du PSG, Kvaratskhelia, a tweeté « Allez les Bleus, on va la ramener à la maison » avec une photo de Dembélé et Barcola qui sont ses coéquipiers. Pied au PSG, évidemment.
Les supporters des Bleus ont conquis New York.
Alors, on les avait vus à Times Square. Hier, ils ont investi avant le match le pont de Brooklyn pour mettre l'ambiance dans la rue avec vue sur le pont. C'est la photo d'une affiche mythique du cinéma américain. Il était une fois en Amérique, c'est presque le titre qu'on a envie de donner à l'aventure des Bleus à la Coupe du Monde. On verra qui sera Robert De Niro. En plus, le 8e de finale des Bleus, c'est samedi le 4 juillet, fête nationale américaine. On part à la conquête de l'Ouest. J'ai préféré mettre ça plutôt que Joe Dassin. L'Amérique, ça rappelle de mauvais souvenirs. 93 et la non-qualification pour le premier mondial aux États-Unis.
Le secrétaire américain à la sécurité intérieure a fêté l'élimination de l'Iran.
Il a avoué avoir esquissé des pas de danse, chanté quelques morceaux, bu quelques verres pour célébrer la sortie de l'Iran. J'étais très heureux que l'équipe iranienne parte, dit-il. Jamais on a vu une équipe nous poser autant de problèmes. Oui, enfin, les Iraniens disent la même chose des Américains. Ils ont même porté plainte auprès de la FIFA en estimant être l'équipe la plus maltraitée de la Coupe du Monde.
Neymar parle plus qu'il ne joue dans cette Coupe du Monde.
Il ne marque pas, il ne joue pas, mais il cause. Oui. Neymar a le temps d'observer tout ce qui se dit autour de la sélection brésilienne et le contre-attaque. Samba. Et il s'en prend un économiste allemand qui avait créé un modèle de prédiction du vainqueur de la Coupe du Monde. Il avait trouvé 2014, 2018, 2022, mais là, il avait donné les Pays-Bas, donc il avait tort. Il avait aussi prévu l'élimination du Brésil par le Japon. Raté. Encore raté, c'est le commentaire de Neymar, comme quoi il s'est taclé. Hein.
Et puis, il y a un petit emballement autour du 16e de finale entre l'Angleterre et la République démocratique du Congo ce soir.
Alors, il y a un ancien joueur de la RDC, Gabriel Zakouani, qui n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, c'est l'événement le plus important de l'histoire du pays. Ça surpasse le mythique combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman au Zaïre. Ça s'appelait comme ça en
1974. Toutes choses égales par ailleurs.
Voilà, n'est-ce pas? Et puis la réponse des Anglais, c'est pas sur le terrain, c'est pas le match en lui-même, c'est Jude Bellingham au service de Sa Majesté. Le milieu de terrain anglais, je verrais bien en prochain James Bond. Honnêtement, si jamais les Anglais venaient à gagner la Coupe du Monde, vu qu'ils ne l'ont pas fait depuis 60 ans, je suis sûr que c'est possible pour lui.
Pourquoi pas 0-0-7 en Jude Bellingham ou l'inverse. Merci Virginie Fulpin. Paraguay-France samedi 23h, la suite des 16e de finale ce soir sur RMC bien sûr. Dans un instant, les grandes gueules. Quel est le programme, Alain Marchal?
Déjà, je vous dire qui est là. On a Abel Boyi, l'éducateur, Fatima Ibounoua, la prof de français, Barbara Lefebvre, l'enseignante en histoire-géographie. Avec Fatima, on verra si ses élèves, ils arrivent plus avec des maillots de foot au lycée ou Mbappé en classe. C'est façon de parler, bien sûr. On reviendra sur le petit Hamza, vous savez, le gamin du canal Saint-Martin. Parce que comme on a deux profs et un éducateur, c'est de savoir si Hamza, c'est une graine de voyou ou si c'est juste un petit déconneur. Bah, vous savez ce qu'elle nous a dit, Fatima, ce matin, la prof de français, elle dit, mais moi, dans mon collège, des Hamza et dans ma classe, j'en ai 3 ou 4 comme ça. Et c'est le problème, c'est de les reprendre, surtout quand les parents sont pas derrière. Bah, vous venez en parler avec nous au 32-16.